Vous êtes sur RTL.
7h45, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichaud, vous recevez donc ce matin le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL au lendemain d'une première importante réunion de concertation sur les retraites. Ça y est, le chantier de cette vaste réforme est lancé. Public, privé, salariés, fonctionnaires, tout le monde sera au même régime. Alors dans le futur, hein, c'est pas pour tout de suite. Ça va mécaniquement faire baisser les pensions de 90% des actifs, a dit la CGT hier. Il y aura autant de perdants que ça, Geoffroy Roux de Bézieux ?
Je ne crois pas. D'abord, c'est trop tôt pour le dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, les Français ne croient plus dans le système de retraite. Il y a des sondages qui montrent, en particulier les jeunes, que pensent qu'ils n'auront pas de retraite ou peu de retraite. Et puis, on a un système qui est très particulier en France, par répartition, c'est-à-dire c'est les actifs qui payent pour les retraités, et 42 régimes avec des régimes spéciaux, fonction publique, mais pas seulement. Donc, pour la première fois depuis très très longtemps, on fait une réforme des retraites qui n'est pas juste le changement paramétrique, mais qui remet tout le monde à égalité.
Oui, parce que ça fait 25 ans qu'on réforme les retraites.
Exactement,
hein,
mais à chaque
ans,
fois,
revient,
exactement. Et là, on est sur une retraite qui met tout le monde avec des points. 1 euro égale le même nombre de points, qu'on soit fonctionnaire, qu'on ait travaillé peu ou pas beaucoup.
Mais c'est vrai que, par exemple, vous parlez des fonctionnaires. Fonctionnaires, aujourd'hui, leur système est calculé, vous le savez, comme tous les fonctionnaires, sur les 6 derniers mois de leur carrière. Là, ce sera pour tout le monde sur les 25 dernières années. Mécaniquement,
non,
je reprends
ça
le mot.
Ce ne sera pas
de
sur les 25 dernières années. Tous les points compteront depuis le début de votre période de travail.
Tous les points à partir du moment où on travaille. Mais ils y perdront quand même.
Non, parce que, alors, je ne vais pas entrer dans le détail des fonctionnaires pour ne pas être trop technique, mais il y aura des compensations. Ce qui compte, c'est que.
Il y aura
tous
des compensations pour tous ceux qui aujourd'hui...
C'est pas
alors,
moi
ça sert
qui porte la réforme des retraites. Non, mais il y aura un système équitable qui fait que les salariés du privé, ça qui nous intéresse, hein, c'est nos salariés, auront le même droit à la retraite que les fonctionnaires, ce qui me paraît juste, et ce qui va rendre le système pérenne financièrement, parce qu'il y a ça aussi. On a quand même un sujet de pérennité financière sur ce système de retraite.
De pérennité, mais aujourd'hui, les caisses ne sont pas vides, justement, paradoxalement.
Oui, mais
paradoxalement.
Tout, ils sont pas vides. D'abord, on est en déficit, 1,4 milliard, donc c'est pas formidable.
Oui,
mais surtout, il faut regarder à terme. La démographie, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités, et donc il faut être capable d'imaginer un moment où, si l'espérance de vie continue à augmenter, on travaille un peu plus longtemps.
Alors justement, vous avez mis de la tension dans ce débat en proposant quelques jours un âge pivot. Alors l'âge légal de départ resterait 62 ans, ça s'est confirmé, mais il y aurait, c'est votre, en tout cas ce que vous souhaitez.
C'est une des propositions qu'on fait.
Voilà, une décote automatique sur les pensions si on ne travaille pas un ou deux ans de plus. J'essaye de résumer le
principe. C'est un bon résumé. Hein. C'est ce qu'on a mis en place sur les retraites complémentaires.
Exactement.
Avec les syndicats, avec la CFDT. Tout
voilà.
À fait.
Ça vous le rappelez parce que ça piège un peu la CFDT, évidemment.
Je
dans
je
ce
souhaite
débat.
Piéger la CFDT, mais c'est logique. C'est logique. Pourquoi ? Parce que l'espérance de vie, elle augmente. Et d'ailleurs, je le dis, si l'espérance de vie n'augmente plus, parce que c'est le temps qu'on passe à la retraite qui compte. Hein. Et donc, effectivement, ce n'est pas tellement l'âge à laquelle on prend la retraite, c'est le temps qu'on a devant soi en fonction de l'espérance de vie.
25 ans en moyenne.
C'est ça, 26 ans plus précisément. C'est le plus long temps à la retraite en Europe et dans l'OCDE. Bon, si on continue, grâce au progrès de la médecine, à augmenter l'espérance de vie, il est assez légitime qu'une partie de cette espérance de vie, elle soit mise au travail. Ce n'est pas absurde.
Mais quand Jean-Paul Delevoye, qui est le haut-commissaire qui pilote la réforme, dit hier, 62 ans, ça restera la borne, ça restera l'âge légal de départ à la retraite, le reste, ça n'est pas de notre ressort. C'est textuellement ses mots. Il évoquait l'âge pivot. Vous le comprenez comment ? C'est pas arbitré, faites ce que vous voulez, on ne veut pas voir exactement.
C'est encore en négociation. Mais il a raison de dire que l'âge restera à 62 ans. On peut prendre sa retraite, on pourra prendre sa retraite à 62 ans, mais on n'aura pas 100% de sa retraite à 62 ans. C'est ce qu'on fait en régime complémentaire, et ça a eu un effet très significatif
sur les
rentrées financières, évidemment.
Ouais, mais les syndicats disent non pour l'instant.
Mais vous leur demanderez quand vous les inviterez.
Ouais, parce que vous pensez quoi ? Que finalement, vous arriverez à imposer ça dans la réforme ?
Je ne cherche rien à imposer, c'est juste une question de logique. Si on vit plus vieux, il est assez normal qu'on travaille plus vieux.
Et la logique, c'est de faire des économies en l'espace ?
La logique, c'est de s'assurer de la pérennité du système. Les Français ne croient plus, et ils ont d'ailleurs raison, qu'ils auront une retraite.
Mais
et c'est ça qu'on cherche à faire.
Mais pour travailler plus longtemps, vous le savez bien, c'est un argument que vous connaissez depuis toujours. Pour travailler plus longtemps, il faut avoir du boulot, Geoffroy Roux de Bézieux. Or, les boîtes, les entreprises, elles continuent de pousser les seniors dehors.
De moins en moins, puisque ce qu'on appelle le taux d'emploi des seniors a très fortement augmenté. Alors, on était en retard par rapport à l'Europe, mais c'est vrai qu'il y a une responsabilité des entreprises. Et depuis, justement, que l'âge de la retraite a été mis à 62 ans, vous voyez ce qu'on appelle le taux d'emploi des seniors, donc le nombre de gens au-delà de 60 ans qui sont employés, qui augmente.
Qu'est-ce que vous dites aux salariés à qui vous dites qu'il faut travailler plus longtemps et que les entreprises mettent mettre dehors? Qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous mettez comme dispositif pour les protéger?
Il n'y a pas de dispositif à mettre. Il y a effectivement, un engagement des entreprises à prendre.
Il faut quand même dire aux patrons de le faire.
Oui, mais ils le font.
Vous êtes le patron des patrons.
Ils le font. Je suis le porte-parole des patrons, pas le patron des patrons. Mais ils le font. Je vous dis, le taux d'emploi des seniors, c'est le nombre de seniors, enfin de gens de plus de 60 ans qui sont employés, continue à augmenter.
Quand la réforme arrivera-t-elle au Parlement, à votre avis? Parce qu'on a dit avant l'été...
La réforme des retraites.
La réforme des retraites.
Évidemment pas moi qui vais, peux vous
non,
répondre.
Non, mais comment vous le sentez? Parce qu'on avait dit avant l'été, c'est un sujet explosif, cette réforme des retraites. Maintenant, on dit courant 2019, ce sera plutôt à la fin de l'année.
J'espère que ça
le
sera...
Le gouvernement
si
recule,
vous me demandez un
avis,
souhait plutôt qu'un pronostic, j'espère que ça sera avant l'été. Il n'y a pas de raison. Les paramètres sont connus, il n'y a pas de raison de reculer.
Donc, mais ça sera plutôt après les européennes?
C'est une question de nature politique, donc il faut laisser le président de la République, quand il aura fait son remaniement, décider.
Il y a une réforme qui arrivera beaucoup plus vite, c'est celle de l'assurance chômage.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est janvier.
Alors, vous avez déjà fixé une ligne rouge en arrivant dans la négociation, c'est la taxe, le bonus-malus sur les contrats courts, c'est-à-dire une taxe sur les entreprises qui abusent des contrats courts. Tactiquement, c'est une bonne façon d'entrer dans la négociation en mettant une ligne rouge comme ça?
Alors, le bonus-malus, c'est pas une taxe sur les entreprises qui abusent des contrats courts. C'est un système très très complexe qui prend, qui prend le taux de séparation à Pôle emploi. C'est-à-dire le nombre de gens qui quittent l'entreprise, qui s'inscrivent à Pôle emploi, qu'ils soient licenciés économiques, qu'ils soient en CDD, qu'ils soient en intérim, quel que soit le motif de séparation. On prend ensuite la référence du secteur économique et on fait un bonus-malus, c'est-à-dire soit une baisse de cotisation, soit une hausse de cotisation. Déjà l'expliquer,
c'est
déjà
très
compliqué.
De 0, quelque
exactement
chose de cotisation
à 7%.
Voilà. Donc ça veut dire quand même
c'est l'équivalent d'un CICE pour une entreprise, en bonus ou en malus. Tout ça pour un résultat qui ne marchera pas parce que ça ne va pas baisser des contrats courts ou des CDD ou de l'intérim, ça va simplement supprimer de l'emploi.
Combien
c'est pour
y
ça qu'on a
de contrats de moins d'un mois en ce moment?
En nombre de contrats, aujourd'hui je ne peux pas vous le dire, mais c'est effectivement
alors,
assez nombreux.
Christian Métanton nous le disait l'autre jour, c'était quand même assez passionnant, dans 8 cas sur 10, les CDD sont de moins d'un mois.
Mais pourquoi?
Ce sont des contrats ultra courts.
Mais pourquoi?
Non mais vous êtes d'accord?
Oui, sur les chiffres de M. Métanton, je n'ai pas les contestés, mais est-ce que je peux vous expliquer pourquoi? Non mais je vous explique pourquoi, tout simplement parce que dans plein d'activités, vous savez que la moitié de ces contrats courts sont dans le médico-social, et en particulier dans des établissements parapublics. Donc le public et le privé, le public n'est pas meilleur que le privé. Pourquoi? Parce que ce sont des contrats de remplacement. Et donc les gens sont absents une, deux journées, on les embauche pour deux journées, puis après ils vont un peu plus loin, et ils vont remplacer quelqu'un d'autre.
Des assistants, des infirmières?
Par exemple.
Mais vous vous dites
par exemple,
quoi?
Non mais je dis simplement qu'il faut imaginer un contrat de travail qui permette, sous une autre forme, c'est ce qu'on est en train de négocier dans les branches, parce que c'est très localisé dans certaines branches, dans certains secteurs économiques.
La restauration, c'est très bien, par exemple.
Restauration, mais il y en a d'autres. Hein. Et c'est là où il faut travailler, plutôt que de mettre en place un système général, bonus-malus, qui irait sur tous les secteurs qui ne sont pas concernés. Non, ça fait pas 25 ans. Non, non,
ça fait 25 ans. On va discipliner, mais que ne l'avez-vous fait avant?
D'abord, ça fait pas 25 ans.
Le principe de la précarité et du contrat court.
Non, pas du tout.
Multiplié par 4 en 25 ans.
Oui, justement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que ça fait pas 25 ans que ça existe. Il y a une accélération récente sur les CDD. C'est pour ça que, quelle est la caractéristique du marché français du travail? Il y a un CDD assez précaire et un CDI très inflexible. Et il y a un problème de contrat de travail. La bonne manière de résoudre le problème, c'est par le contrat de travail dans les branches, c'est pas avec ce bonus-malus.
Contrat unique, ça vous voulez dire?
Ou en tout cas, des contrats qui se rapprochent.
Est-ce que c'est vraiment une ligne rouge pour vous?
Le bonus-malus? Oui, on ne signera pas un accord avec les partenaires sociaux qui contiendrait ce bonus-malus.
Mais
donc,
hier encore, cité par un CPME, une des branches du patronat, la ministre Nicole Pénicaud dit...
Muriel Pénicaud.
Muriel Pénicaud,
c'est la même.
Et qui tient bien les rênes du dossier, dit si jamais il n'y a pas quelque chose sur les contrats courts, l'État reprendra les rênes de l'assurance chômage. Donc elle aussi, elle en fait une ligne rouge.
Non, elle n'a pas dit bonus-malus. Elle a dit simplement, d'ailleurs ça ne figure pas dans la lettre de cadrage.
Non.
Ce que dit Muriel Pénicaud, en fait, quand on l'a rencontrée, c'est qu'elle dit il faut que vous trouviez dans les branches un système qui permet de résoudre ces abus, parce qu'il y a quelques abus dans certaines branches. Et on y travaille depuis maintenant le mois de mars. Donc oui, on pourra signer un accord avec effectivement des accords de branche, mais pas le système de bonus-malus généralisé.
La dégressivité des allocations pour les au salaire. Édouard Philippe a dit il y a quelques jours qu'il y était favorable, vous aussi.
Non, nous, ça fait partie des solutions qu'on explorera. C'est pas la seule solution pour faire des économies
mais
dans l'assurance chômage. Ça fait partie des solutions. Il n'y a pas que
donc
ça.
Donc vous y êtes favorable par définition, si c'est une des solutions
c'est
que vous
envisagez. C'est une des solutions, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres et on n'est pas obligé de prendre celle-là, il y en a d'autres.
Par exemple ?
Ben, par exemple, le raccourcissement de la période de chômage. Par exemple, le taux de remplacement. Par exemple, il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer.
Oui, pour faire en sorte qu'il y ait un retour à l'emploi.
Plus rapide.
Plus rapide.
Parce que c'est le but de tout ça, hein. On l'oublie, mais c'est quand même le but de tout ça.
Réduire les droits, ça permet de revenir au travail ?
Non, mais réduire les indemnités de gens qui sont longtemps au travail et qui peuvent retrouver du travail,
qui sont longtemps
au chômage, ça fait partie des choses à mettre sur la table.
Merci beaucoup Geoffroy Roulouzet d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
Et l'intégralité de cet entretien est retrouvée sur le site rtl.fr.